Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel, au chapitre 4 et au verset 4. J'aimerais parler ce matin sur le péché d'orgueil. Daniel, chapitre 4, verset 4, nous voyons ici un roi Nebuchadnezzar qui va chuter dans ce péché et nous allons voir les mécanismes de ce péché et comment on peut s'en sortir aussi. Par rapport au conseil de la parole de Dieu. Il est écrit donc, « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les Chaldéens et les devins, et je leur dis en songe, et ils m'en donnèrent point d'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe, Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. » On va arrêter là la lecture pour l'instant, on reviendra sur le chapitre 4, quelques éléments à tirer de ce passage. Mais déjà, l'orgueil déjà transparaît de ce monarque Nebuchadnezzar, qui a fondé un empire. Ce n'est pas simplement un royaume, mais il a conquis différents pays, il a dévasté le peuple d'Israël, il a emmené des captifs dont Daniel faisait partie, il a pillé le temple de Jérusalem, emporté des objets sacrés, déporté des familles entières, donc il règne sur toute une région du monde. Et rien ne semble arrêter cet homme, il a un pouvoir, il a des armes supérieures, et il va de victoire en victoire. Si vous vous rappelez le livre de Daniel, on a parlé du chapitre 2, cette vision qu'avait eue ce roi Nebuchadnezzar de cette statue composée de différentes parties dont la tête était en or. Il a rêvé d'une statue dont la tête était en or. Et cette tête d'or, Daniel lui avait dit, ça représente Nebuchadnezzar. Donc il a fondé son empire sur tous ses royaumes. Et on voit que rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Alors il a confiance dans ses capacités, dans ses idoles. Mais ce que nous voulons dire ce matin, c'est que se confier dans nos capacités, dans les choses de cette terre, c'est une fausse sécurité dont beaucoup de gens croient. Je discutais avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui étaient malades, et en fait, toute leur confiance se portait dans la médecine, par exemple. Ils se confiaient dans les hommes. On voit qu'il n'y avait pas d'espoir au-delà des thérapies humaines. Alors se confier, bien sûr, dans les hommes qui a donné, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes, et nous bénissons le Seigneur pour les médecins, gloire à Dieu. Mais nous savons qu'au-delà, il y a le divin médecin qui guérit et qui peut faire au-delà. Lui, il s'était confié donc dans ses capacités, dans sa force. La Bible dit « il vivait tranquille », c'est le mot « shalom » en hébreu, le mot « paix », et il vivait heureux ou prospère. Ça, c'est la définition de quelqu'un qui vit dans une vie illusoire, qui ne connaît pas Dieu, parce qu'en fait, si nous n'avons pas Dieu, nous n'avons ni la paix, ni le véritable bonheur. Parce que la paix, elle se trouve uniquement en Jésus, et le vrai bonheur, c'est Dieu qui l'accorde. Philippiens 4:7 dit, la paix de Dieu, et c'est cette paix-là, frères et sœurs, que nous devons rechercher par-dessus toute chose, non pas l'illusion de la paix ou le sentiment de paix, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix-là, Jésus nous la communique par la foi. Nous la recevons ce matin, et je dirais même, nous sommes renouvelés dans la paix au fur et à mesure de notre marche. Il existe un autre bonheur, le bonheur de ce monde, nous savons qu'il est passager. Cet homme croyait qu'il était tranquille et heureux, mais en réalité, il existe un autre bonheur. Jésus en parle dans cette partie du Nouveau Testament, dans Matthieu 5, lorsqu'on a appelé cette section le Sermon sur la montagne et les Béatitudes. Il commence par une série de heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, heureux les humbles, heureux les miséricordieux. Et puis, il y a toute une série de personnes qui sont heureux. Pourquoi ? Parce qu'elles connaissent Jésus, parce qu'elles font confiance au Seigneur, parce qu'elles ont trouvé un bonheur qui n'est pas de ce monde. Alors, on peut chercher sur cette terre, oui, de la paix, on peut chercher le bonheur, et c'est la quête de tous les hommes. Mais nous connaissons en Christ la vraie paix et le vrai bonheur, et ça, c'est déjà un avantage que nous avons d'être chrétiens. Le premier point que je vois dans ce passage, c'est le songe dont Nebuchadnezzar mentionne ce qu'il a agité pendant la nuit. Dieu lui a parlé par un songe. Nous savons que Dieu parle de différentes manières. Par exemple, on m'a posé la question, oui, mais qu'en est-il de ceux qui n'ont jamais entendu parler de la Bible, par exemple? Qu'en est-il de ces tribus assez reculées, lointaines, qui n'ont jamais eu accès à l'Évangile? On ne leur a jamais témoigné de Christ. Comment ça va se passer pour eux? Bien, la Bible répond à cette question en disant ceci. C'est que Dieu parle de plusieurs manières. Il parle, par exemple, par la création. Parce que la création nous parle de la gloire de Dieu. Vous avez les psaumes, par exemple, le psaume 19 qui dit « Les cieux proclament la gloire de Dieu ». Les cieux nous parlent du Créateur. Et puis, j'ai étudié ce que la création nous dit et j'ai repéré six attributs de Dieu qui sont mentionnés, sa puissance, sa divinité, sa gloire. Six attributs de Dieu qui nous sont exprimés par la nature même, sans qu'il y ait l'intervention de la parole écrite. Donc déjà, tous ces peuples, ils sont au bénéfice de ce premier livre, on l'appelle le livre de la nature, parce que Dieu parle par la nature. Mais ce n'est pas tout. La Bible nous dit aussi que Dieu parle par la conscience et qu'il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Donc il a mis dans tous les êtres humains la pensée de l'éternité. Et cette pensée de l'éternité pousse les hommes à chercher Dieu, à se tourner vers le ciel, à se tourner vers un être supérieur. Et cela aussi, c'est un moyen de Dieu de parler dans la conscience. Un autre encore moyen de parler de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Nous savons que Dieu parle par le Saint-Esprit. Et nous savons que Dieu parle par des visions, par des songes. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Nebuchadnezzar. Ce n'était pas un croyant, ce n'était pas quelqu'un qui adorait Dieu, mais Dieu était en train de lui parler par des songes. Et j'ai eu un article d'un journal qui s'appelle Christianity Today, d'octobre 2007, dont le titre est ceci, « Pourquoi des musulmans suivent Jésus ?» C'est interpellant. Pourquoi des musulmans suivent Jésus ? Alors, il y a toute une série de points, mais j'ai retenu un seul point, parce que ça concerne un peu notre sujet. Il disait, un des points, c'est les songes et les visions. Ils ont joué un rôle important dans la conversion de beaucoup. Alors, pourtant, ils n'étaient pas du tout avec la parole de Dieu, et ils ne connaissaient pas le Dieu que nous connaissons. Mais Dieu leur a parlé par des songes et des visions. Alors l'article dit ceci, selon un sondage, 27% des sondés ont bénéficié de visions avant leur conversion. C'est quand même important. Et même le chiffre s'élève à 40% après la conversion, parce que Dieu continue à leur parler par des visions aussi. Ces songes et ces visions ont amené les musulmans à chercher des réponses auprès de chrétiens ou dans la Bible. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas nécessairement entendu parler de la Bible, ou ils ne savaient même pas où il y avait des chrétiens, mais dans la vision et le songe, il y avait des indications pour trouver une Bible, par exemple, ou pour rencontrer des chrétiens. Allez dans telle rue, dans tel endroit, vous trouverez des chrétiens ou vous trouverez une Bible. Vous voyez que Dieu parle. Et pourtant, ce ne sont pas des croyants à proprement parler, puisqu'ils sont encore musulmans. Alors, j'ai noté aussi, souvent, ils déclarent avoir vu Jésus qui irradiait de lumière. Voilà ce qu'ils voient souvent dans leur vision. Une femme emprisonnée en Turquie à cause de sa conversion eut la vision de sa libération avant même qu'elle ne se produise. Et en fait, sa libération s'est produite exactement comme Dieu lui avait montré dans sa vision. Voilà, Dieu parle par des songes. Donc, on se rend compte que Dieu parle de toute façon, de toutes sortes de manières. Évidemment, le meilleur canal par lequel nous pouvons vraiment comprendre Dieu, c'est la parole écrite, puisque nous l'avons à notre disposition, nous pouvons la lire. Mais nous devons penser à tous les pays qui n'ont pas accès à la parole de Dieu, la Bible. Mais ça n'empêche pas Dieu de parler quand même. Il n'est pas limité par des pages écrites, il parle de différentes manières. Et j'ai aussi pensé à ce texte dans le Nouveau Testament, c'est cet homme qui s'appelait Corneille. Corneille, dont il est dit qu'il était païen, qu'il était romain, donc, de la cohorte italienne, et alors qu'il cherchait Dieu à sa manière, puisqu'il il priait, il avait quand même une quête spirituelle, parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, on revient à ces passages, il a cette soif du divin, et la Bible dit qu'alors qu'il faisait ses prières, qu'il faisait monter vers Dieu, mais sans être né de nouveau, sans être véritablement un disciple, un enfant de Dieu, il priait Dieu, il parlait à Dieu, et la Bible dit qu'un ange est venu en vision lui révéler tout ce qu'il devait faire, en fait, pour être sauvé. Cet ange lui a dit, tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu, tu vas envoyer des hommes à Joppé, là, ils vont trouver un certain Pierre qui habite dans telle rue, et puis une maison qui est près de la mer avec toutes les indications pour trouver Pierre. Tu fais venir cet homme-là et il te dira exactement ce que tu dois faire. Eh bien, cet homme a obéi à la vision, il a fait venir Pierre, et à ce moment-là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau, et ils ont été remplis du Saint-Esprit dans la même foulée. Donc on voit que Dieu entend aussi des prières qui ne viennent pas forcément de croyants encore, de personnes qui sont peut-être dans des religions, dans une quête spirituelle. Eh bien, le Seigneur va se révéler à eux, soit par des visions, par des paroles ou par des contacts, par des témoignages, de toutes sortes de manières. Il y a un verset qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On va dire que les manières de Dieu sont diverses et variées, et l'on n'y prend point garde. Et ça, c'est notre part, finalement, que nous ne sommes pas toujours attentifs. Parce que peut-être le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin, déjà plusieurs fois, et même il est revenu une deuxième fois, peut-être trois fois. C'est la version Darby qui traduit, « Car Dieu parle une fois, deux fois, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une fois, deux fois, et nous ne prenons pas garde, nous n'écoutons pas. Ou alors nous avons entendu, mais nous préférons faire ce que nous avons décidé. » Alors peut-être le Seigneur revient sur ce point afin d'être attentif à ce que Dieu nous dit. Et puis prions le Seigneur, « Seigneur, parle-moi parce que tu as un plan pour ma vie, tu as des projets pour notre Église, tu as des projets pour ma famille, pour le travail où je suis, Seigneur. J'ai besoin de tes directives, alors parle-moi, instruis-moi. » Dieu parle, il parle par toutes ces manières dont nous avons évoqué. Alors on arrive au verset 8, un deuxième point. Puisque Nebuchadnezzar reconnaît une chose importante chez Daniel, il reconnaît qu'en Daniel, il y a l'esprit des dieux saints. Bon, il s'exprime avec ces mots, on a dit qu'il n'est pas vraiment croyant. Lui, il voit qu'il a l'esprit des dieux saints. Nous savons qu'il a l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui anime Daniel. Mais néanmoins, le fait que Daniel vive dans une communion avec Dieu interpelle cet homme, ce souverain, et lui fait comprendre que Daniel a quelque chose de Dieu en lui. Alors lui, comme il est polythéiste, il parle des dieux. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, que cet homme, ce roi, ne connaît pas encore. Mais Daniel connaissait Dieu et il connaissait le Saint-Esprit. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et c'est exactement ce qu'il nous faut aussi aujourd'hui. Bien sûr, nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus, mais nous croyons dans l'action du Saint-Esprit et nous nous attendons à ses dons. Et c'est par les dons de l'Esprit que nous pouvons faire la différence. Puisque si nous regardons les disciples, ils n'étaient qu'une poignée finalement. Ils étaient moins nombreux que nous. Ils étaient une douzaine, après ils sont arrivés à 120. Mais ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, Dieu a utilisé ces faibles instruments. Ils n'étaient pas très très forts, pas très nombreux. Mais par l'onction du Saint-Esprit, ils ont apporté la parole de Dieu. Ils ont témoigné. Et en fait, les premiers chrétiens, si vous regardez, ben c'était des témoins. Ils parlaient de Jésus. Et quand ils parlaient de Jésus parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, eh bien, l'œuvre de Dieu se faisait et d'autres se convertissaient et ils grandissaient, qui devenaient des témoins, et jusqu'à nous aujourd'hui. Mais tout cela, c'est parti de Actes chapitre 2, du baptême dans le Saint-Esprit. Vous regardez les disciples avant le baptême du Saint-Esprit, ils avaient peur, ils se cachaient, ils craignaient l'intervention des persécutions, ils n'avaient pas la liberté de parler de Jésus, mais une fois qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, quelle différence ? Et c'est ce que Daniel nous dit ici, c'est ce que nous croyons aussi, c'est que l'œuvre de Dieu se fait par l'œuvre du Saint-Esprit. Aussi, c'est un signe d'humilité de reconnaître que ce n'était pas par nos efforts ni par nos forces, mais par le Saint-Esprit. C'est un peu l'histoire de Paul, Paul d'ailleurs qui signifie petit. Il s'appelait Saul de Tarse, mais il a voulu s'appeler petit et il a voulu conserver cette humilité en reconnaissant que l'œuvre de Dieu se fait par son faible moyen. Et il disait, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il disait, Christ est ma vie. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est même plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toutes ces paroles sont donc remplies du Seigneur et il montre qu'il est mort à lui-même, qu'il laisse le Saint-Esprit agir. Alors l'Esprit va nous donner l'onction pour le témoignage et pour le service, pour sa maison, pour son œuvre. Et jamais, jamais nous ne pourrons faire l'œuvre de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Les défis sont trop grands. C'est ce que vit Daniel. C'est par l'Esprit qu'il va révéler maintenant l'interprétation du songe. Alors nous arrivons au troisième point, c'est le songe. Qu'est-ce qu'a donc rêvé ce roi? Alors dans le chapitre 4, le rêve de Nebuchadnezzar, c'est un immense arbre. Un immense arbre au milieu de la terre qui touche, dont le sommet touche le ciel et dont les rameaux sont immenses. En fait, il a un feuillage abondant et beaucoup de fruits et les bêtes des champs vont se cacher à son ombre et les oiseaux du ciel vont se réfugier dans ses branches. Mais un ange du ciel descend vers cet arbre et donne une parole de Dieu. Et il dit, coupez cet arbre, dispersez son fruit. Et toutes les bêtes, à ce moment-là, se sont dispersées. Alors il ne resta que le tronc et les racines, et on mit un lien de fer autour de lui. Et il y a une parole concernant ce tronc qui reste. Il aura sa part d'herbe avec les bêtes, son cœur d'homme sera changé en cœur de bête pendant 7 ans. Voilà le rêve qui a agité la nuit du roi Nebuchadnezzar. Et comme il ne comprend pas ce que Dieu, parce qu'il croit qu'un Dieu peut lui parler par cela, même s'il croit en plusieurs dieux, en tout cas il croit qu'un Dieu veut lui parler, alors Daniel reçoit par l'Esprit Saint l'interprétation. Et c'est pourquoi quand nous avons une vision, nous avons besoin de prier pour l'interprétation du songe, de la révélation. Alors Daniel reçoit ceci. Lorsqu'il a compris que Dieu était en train de parler à ce souverain, il a dit, mais que cette interprétation ne t'arrive pas, qu'elle arrive à tes ennemis, et il est consterné. Parce que l'arbre représente Nebuchadnezzar lui-même. Il est grand, il est fort, il est puissant. C'est la gloire des hommes. Mais un ange qui est descendu du ciel annonce une sentence de Dieu, le Dieu créateur. Nebuchadnezzar sera chassé des hommes et il mangera de l'herbe comme les bêtes. Pendant 7 ans, c'est-à-dire 7 années, pendant lesquelles il sera exclu des hommes, il vivra sous la rosée et il vivra comme un animal. Le tronc signifie qu'il retrouvera son royaume à la fin des 7 années où il sera exclu des hommes. Alors c'est effectivement ce songe qui annonce prophétiquement ce qui va arriver à ce roi. Et on s'est interrogé sur cette maladie qui a touché ce roi. On pourrait comparer cela à une folie. Les médecins, certains qui ont étudié cette question, ont parlé de lycanthropie, c'est-à-dire d'une personne qui est atteinte d'une maladie et il se prend pour un animal. C'est une forme de folie en psychiatrie. Et en principe, Dieu nous a donné l'autorité pour dominer sur les animaux, parce que nous sommes une créature de Dieu, comme les animaux, mais nous avons reçu l'autorité pour dominer nous. Et là, on se rend compte que le péché qui est rentré dans le cœur de l'homme a souvent réduit l'homme bien au plus bas. Et là, il va se retrouver avec les animaux. Le péché va le pousser dans la misère. Le péché va le pousser à vivre comme une bête, finalement. Alors que nous sommes appelés à régner, le péché nous rend proches des animaux. Vous avez cette histoire du fils prodigue qui, à un moment donné, alors qu'il a quitté le père, la maison de Dieu, où il était bien, il a vécu dans le bourbier avec les cochons. Il était proche des animaux. C'est le péché qui l'a conduit dans cette direction. Ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Et il s'est vautré dans le péché. Il est allé dans la débauche. Il a vécu d'une vie de liberté, soi-disant la liberté, mais ce n'était qu'esclavage. Il était malheureux et c'est en revenant à lui, la repentance, qu'il est revenu au Seigneur. Alors, Daniel conclut par un avertissement, et c'est vrai pour nous. C'est pourquoi, ô roi, alors c'est Daniel 4, 27, écoute mon conseil, que mon conseil te soit agréable. Romps avec tes péchés par la justice et avec ton iniquité par la compassion envers les affligés, si ce peut être un prolongement de ta paix. Voilà le conseil donc de Daniel qui est encore bon pour nous, c'est de rompre avec le péché, c'est-à-dire de se repentir, de demander pardon, de changer d'attitude et de vivre une vie nouvelle. Le roi avait la possibilité à ce moment-là de se repentir, je pense. Parce que ce rêve qu'il a reçu, c'est Dieu qui lui parle. Daniel lui en donne l'interprétation avec la solution, rompt avec le péché. Donc, si tu te repens, tu vas pouvoir échapper à ça. Mais, voyez, ce roi était tellement orgueilleux, tellement vaniteux, il n'a pas voulu écouter les paroles de Daniel et la repentance. Il y a un pasteur qui s'appelle Joe Wright, qui a été invité à faire la prière d'inauguration au Sénat du Kansas aux États-Unis. C'était en 1996. Alors, tout le monde s'attendait à une prière classique, vous savez, les prières d'introduction un peu neutres. Et il a fait cette prière, la prière suivante. « Seigneur, nous venons vers toi aujourd'hui pour te demander pardon et pour te demander de nous guider. Nous savons que ta parole nous dit « Malheur à ceux qui appellent le bien ce qui est mal. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons perdu notre équilibre spirituel et nous avons renversé nos valeurs. Nous avons exploité le pauvre et nous avons appelé cela la loterie. Nous avons récompensé la paresse et nous avons appelé cela l'aide sociale. Nous avons accepté les avortements et nous avons appelé cela le libre choix. Nous avons négligé de discipliner nos enfants et nous avons appelé cela « développement de leur estime de soi ». Nous avons abusé du pouvoir et nous avons appelé cela la politique. Nous avons convoité les biens de nos voisins et nous avons appelé cela de l'ambition. Nous avons pollué les ondes radio avec la grossièreté et la pornographie et nous avons appelé cela la liberté d'expression. Depuis longtemps, nous avons bafoué les valeurs établies de nos pères et nous avons appelé cela le progrès. Ô Dieu, sonde nos cœurs, purifie-nous et libère-nous du péché. Amen. » Voilà, en pleine réunion de Sénat, c'est une réunion politique. Mais encore aux États-Unis, on prie avant ces assemblées. Et la réaction après cette prière a été immédiate. Un parlementaire a quitté la salle durant la prière, choqué par cette prière. Et puis trois autres aussi se sont plaints que le pasteur a fait une prière d'intolérance. Alors, dans les six semaines qui ont suivi, son église a reçu près de 5000 appels téléphoniques, parce que ça a fait le tour des États-Unis, c'est même arrivé en Europe. Et 47 se sont plaints, mais tous les autres étaient favorables à cette prière de reconnaissance, de confession des péchés, reconnaître qu'on s'est trompé et qu'on demande pardon à Dieu. Et cette église a reçu des demandes du monde entier de recevoir cette prière en signe de repentance, c'est aller en Inde, en Afrique, même en Asie, pour avoir cette prière. Il a eu le courage de demander pardon devant tout le monde. Alors, quand Dieu va toucher des hommes politiques comme cela, et qu'il va toucher des personnes qui sont haut placées, eh bien, cela va avoir un impact encore plus puissant. Et nous pouvons bénir le Seigneur pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, même aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui sont contactés par des chrétiens, on est au courant par certains pasteurs, qui ont accès à des hommes politiques, et il y en a qui s'ouvrent au Seigneur. Et le jour où ils seront touchés par la grâce de Dieu, ça va faire des choses extraordinaires. Prions aussi pour cela, pour nos autorités, que Dieu les bénisse. Alors le roi Nebuchadnezzar a fait le choix inverse. Il a choisi l'orgueil. Nous avons toujours le choix. Soit de nous repentir, demander pardon pour nos péchés, ou soit de persévérer dans le péché. C'est notre liberté. Même un chrétien a ce choix. Et Daniel, chapitre 4 et verset 29, nous arrivons à la fin du récit. Au bout des 12 mois, donc, 12 mois après ce songe, comme il se promenait dans son palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» et il se glorifie de ses œuvres et de tout ce qu'il a accompli. Donc il a négligé le conseil de Daniel, il ne s'est pas repenti, il ne s'est pas humilié, il se croit maître de son destin, et l'orgueil, voilà la véritable source du péché. Car si nous remontons l'histoire et nous regardons comment le péché est entré dans la création, le péché n'est pas entré avec Adam et Ève, il est entré encore avant, il est entré dans le ciel, le péché. Alors que Dieu avait créé les anges parfaits, tous étaient purs, sans défaut, parfaits. Mais il y a un ange de la création que la Bible appelle porteur de lumière, on l'a traduit par Lucifer. Cet ange a voulu se faire l'égal de Dieu, mais ça c'est de l'orgueil. Le premier péché qui a existé dans toute l'histoire, c'est l'orgueil. L'orgueil lui est monté à l'esprit, il a voulu se faire l'égal de Dieu. Il a dit « Je m'assiérai sur le trône du Très-Haut ». Vous trouvez ça dans Ézéchiel 28, Ésaïe 14, deux chapitres qui nous parlent de Lucifer avant la chute et comment il a été précipité de la montagne sainte de Dieu loin du Seigneur, en fait. Alors, il a suscité maintenant l'orgueil parmi les hommes parce que c'est lui qui a parlé à Ève au travers du serpent. C'est ce Satan orgueilleux. Il est devenu Satan. Et maintenant, il va pousser Ève à l'orgueil. Ève, alors que Ève est dans le jardin, il lui dit, mais Dieu a-t-il réellement dit, mais si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, il est en train de la flatter pour qu'elle, elle aussi, ait le même péché qu'il a eu, être comme des dieux, être supérieur, le péché d'orgueil. Voyez, celui qui est en Satan, il va le communiquer. Alors, il va le communiquer à Ève, elle va pécher, et puis il va le communiquer à Caïn. Caïn et Abel, Caïn par orgueil, a voulu offrir les fruits de la terre à Dieu pour montrer ses œuvres à Dieu, pour montrer ses capacités. Abel a offert un agneau, déjà une préfiguration de l'agneau de Dieu. Et donc, Caïn, l'orgueil l'a poussé à, par ses œuvres à chercher Dieu et ça n'a pas abouti. Mais Dieu lui a dit, le péché se couche à ta porte, toi tu peux dominer encore sur lui. Mais il a choisi, comme Nebuchadnezzar, l'orgueil. Et il a tué son frère. Et puis vous avez un peu plus loin la tour de Babel, et vous allez voir que l'orgueil parcourt toute la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la tour de Babel? Les hommes ont voulu s'unir, et ils ont dit, allons, unissons-nous, et nous allons bâtir une tour qui touche le ciel. C'est encore l'orgueil qui les a animés pour construire une tour qui touche le ciel, c'est-à-dire pour atteindre Dieu d'une manière humaine. Et on sait que ça n'a pas pu aboutir et qu'ils ont été dispersés. Le roi Saül, tant qu'il était humble et petit à ses yeux, Dieu lui accordait sa grâce. Le prophète lui dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ?» Mais l'orgueil est entré dans son cœur et il s'est cru pour quelqu'un qui n'avait plus besoin des prophètes, plus besoin de Dieu, et il a agi par lui-même. Et ça a été une catastrophe. Et puis vous trouvez l'orgueil ainsi qui parcourt toute la parole de Dieu jusqu'au Nouveau Testament avec les pharisiens qui aimaient mieux avoir des habits d'apparence plutôt que le cœur changé. Jésus leur reproche cet orgueil, cette forme d'apparence. Vous avez le roi même, le roi Agrippa, vêtu de vêtements royaux, dans Actes chapitre 12. Il était en train d'haranguer le peuple. Et la Bible dit, voix d'un Dieu et non d'un homme. L'orgueil encore a poussé cet homme à parler. Et la Bible dit qu'un ange de Dieu, à ce moment-là, l'a frappé et il est mort, rongé par les vers. Pourquoi? Il n'avait pas voulu rendre gloire à Dieu. Donc l'orgueil poursuit les hommes et on pourrait aussi dire qu'il va toucher des chrétiens. On le voit quand des chrétiens commencent à servir et qu'ils commencent à avoir quelques succès, ils sont tentés par l'orgueil. C'est un piège. C'est un piège dont certains chrétiens sont même tombés. Je pense à l'église de Laodicée. Vous voyez dans Apocalypse 3, ce sont bien des chrétiens, ce sont des frères et sœurs comme nous. Mais cette église se sentait riche, elle se sentait arrivée quelque part. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, l'orgueil, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà la vraie condition. Il ne voyait pas sa vraie condition. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour toindre les yeux afin que tu voies. » Quelqu'un qui est orgueilleux a comme la vision faussée. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien ?» L'œil est faussé. L'orgueil fausse notre vision et est un obstacle à la bénédiction de Dieu. C'est David qui écrit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je m'égarais. J'étais perdu dans mes raisonnements, dans mes péchés. Ma vision était faussée. Maintenant, j'observe ta parole. » C'est cela que le Seigneur veut nous aider à faire, frères et sœurs. Alors, j'ai pensé à Paul, qui nous demande de veiller même dans notre attitude, même dans l'Église, à ne pas tomber dans l'orgueil. Et quelqu'un qui devient orgueilleux, même s'il commence à faire des choses pour le Seigneur, à servir, eh bien, ça va empêcher la bénédiction dans son service et ça va être une occasion de chute pour lui. Il risque même de s'égarer loin du Seigneur. C'est pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres pour rester dans une attitude simple et humble les uns envers les autres et devant Dieu. Une attitude que Dieu demande, c'est dans Philippiens 2:3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ça, c'est ce que Paul recommande dans l'Église. Nous puissions être assez humbles pour reconnaître que nous avons besoin des autres, que nous avons besoin des conseils, que nous avons besoin d'être encouragés et fortifiés dans sa présence. On va conclure avec le verset 34 de Daniel 4, Daniel 4, 34, à la fin du chapitre. « Parce que cet homme a été humilié, alors il a retrouvé la raison. » Daniel 4, 34, « Après le temps marqué, c'est-à-dire les 7 années, cette année où il a vécu comme une bête, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. » C'est quand il a fait cet acte de reconnaissance envers Dieu. J'ai levé mes yeux vers le ciel. Ça veut dire j'ai reconnu que j'étais dans une situation qui ne plaît pas à Dieu. Je reviens à Dieu, je viens dans sa présence et là la raison m'est revenue. La raison saine, la raison que Dieu donne. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. On peut dire qu'il a vraiment retrouvé la raison. Il était égaré loin de Dieu. L'orgueil nous égarera toujours. Et plus on va être orgueilleux, moins on va voir les choses de la meilleure manière. Donc que le Seigneur nous aide. L'orgueil est un véritable péché. J'ai même souligné que c'est le péché originel du diable. Et c'est le péché avec lequel il agit dans la majorité des cas. C'est par orgueil qu'on repousse l'Évangile, qu'on dit « je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus ». C'est l'orgueil, c'est l'être humain qui se met en avant. Eh bien, apprenons au contact du Seigneur cette humilité simple et douce, parce que la Bible dit que Jésus était doux et humble de cœur. Il n'était pas orgueilleux, il n'écrasait pas les autres, mais il vivait dans l'amour, dans la compassion. Et dans cette simple humilité, on va prier quelques instants.